C'est l'émission En profondeur à CKUT. C'est l'heure maintenant de la chronique bi-hebdomadaire des Apatrides Anonymes. Simon qui est avec vous en ce lundi 22 février. C'est une chronique qui est préenregistrée. On vous parle normalement toutes les questions entourant la sécurité nationale, les politiques d'immigration. Aujourd'hui, plus spécifiquement, je vais vous parler des pays scandinaves. Mais tout d'abord, on va faire une courte escale aux Pays-Bas. Pays-Bas qui occupe jusqu'en juin la présidence tournante de l'Union européenne et qui a proposé le projet suivant, soit renvoyer en Turquie les personnes migrantes récemment arrivées en Grèce en échange de l'accueil dans l'Union européenne de 250 000 réfugiés actuellement installés en Turquie. Évidemment, ça occasionnerait des centaines de milliers de déplacements, donc ça demanderait une logistique considérable. C'est un projet qui est examiné en collaboration avec des partis politiques dans 10 pays, dont l'Autriche, l'Allemagne, la Suède. C'est une proposition évidemment qui est contraire à la Convention de Genève et à la plupart des politiques européennes. Selon Amnesty International, un plan d'accueil à grande échelle pour les réfugiés en Turquie, en soi, c'est une bonne idée, mais le rendre conditionnel au retour rapide des personnes traversant les frontières de manière dite illégale, ça reviendrait un peu à faire du troc avec des vies humaines. Donc, à la fois sur l'ampleur du projet et son côté complètement et probablement illégal et immoral. On se demande un peu qu'est-ce qui fume à Amsterdam ces temps-ci. Donc voilà, on va se rendre tout de suite dans les pays scandinaves. On va commencer avec le Danemark. Juste préciser d'abord, il y aura probablement beaucoup de chiffres, donc certaines personnes, ça se peut que vous trouviez ça aride. Et je disais, il y a plusieurs choses communes entre les quatre différents pays scandinaves que sont le Danemark, la Suède, la Norvège et la Finlande. D'abord, je vais pas le répéter à chaque fois pour les quatre pays. Donc, il y a une montée fulgurante de la droite et de l'extrême droite. Il y a un durcissement sérieux des politiques migratoires. Et ce durcissement-là est beaucoup attribué, selon les acteurs politiques, aux événements de Paris et aux agressions de Cologne. Donc, bien que la semaine passée, on a révélé que parmi les présumés accusés de ces agressions-là, il y aurait trois personnes réfugiées qui sont en lien avec l'exode massif du Proche-Orient. Donc, pour trois personnes sur environ 1 million de personnes, on est en train de bouleverser les politiques migratoires des pays scandinaves, mais de la plupart des pays européens aussi. Donc, le Danemark, on commence. Qu'est-ce qu'il y a de particulier le Danemark? C'est que contrairement par exemple, l'Allemagne ou la Suède, le Danemark n'est pas submergé par les demandes d'asile. Il y en a eu que 21 000 en 2015. Donc, dans le contexte européen, c'est pas tant que ça. Mais le Danemark est quand même un point de passage quasi obligé pour toutes les personnes qui cherchent à gagner la Suède, et il y en a beaucoup qui cherchent à gagner la Suède. Le Danemark, achète des publicités dans des médias du Proche-Orient, Turquie, Jordanie, Liban, pour des publicités dissuasives, pour convaincre les gens de ne pas venir, que ce ne sera pas agréable au Danemark et qu'on ne vous recevra pas. En novembre 2015, quand la Suède a décidé de fermer sa frontière avec le Danemark a décidé de faire la même chose avec l'Allemagne. Donc, et c'est vu par le fait même augmenter ses contrôles d'identité, non seulement aux frontières, mais sur les différentes routes qui sillonnent le pays. En janvier dernier, toujours très récemment, donc le Parlement a adopté la loi 87. En fait, c'est adopté ou en voie de l'être. Il y a des dispositions qui ont déjà été votées, d'autres qui le seront bientôt. La fameuse loi 87, on la surnomme la loi sur les bijoux. Je vous explique ça tantôt, pourquoi on appelle ça la loi sur les bijoux. Donc, parmi les 34 propositions qui ont ou seront adoptées, prolongement de 1 à 3 ans du délai nécessaire pour demander le regroupement familial. Les réfugiés devront maintenant payer le coût du transport de leur famille. On a une réduction des permis de résidence de 5 à 2 ans pour certaines catégories. Des frais de dossier de 3 700 couronnes, donc environ 800 $ canadiens, pour les demandes de résidence permanente. Le demandeur devra avoir occupé pendant 2 ans et demi des 3 dernières années, donc, pour pouvoir faire une demande. Le niveau exigé en danois sera également relevé. On a une réduction de moitié de l'allocation versée aux réfugiés. En fait, c'est une deuxième diminution en 6 mois. En août 2015, il y en avait déjà eu une de 45%. Je tiens à rappeler quand même que le Danemark est un des pays les plus chers de la planète et les allocations sont déjà très faibles. Elles l'étaient déjà à la base, d'ailleurs. La mesure controversée, donc pourquoi on appelle ça la loi sur les bijoux, il s'agit de la confiscation d'une partie des liquidités des biens détenus par les demandeurs d'asile à leur arrivée, d'une valeur supérieure à 2000 $ canadiens à peu près. On dit que c'est pour couvrir le coût de leur accueil et ces personnes-là seront autorisées à conserver leur alliance ou tout autre objet à valeur sentimentale. Je sais pas comment, sur quel critère on va se baser pour déterminer si un bien est à valeur sentimentale ou non. Et on veut, autre mesure, faciliter l'expulsion des réfugiés condamnés, un peu du type d'échéance de nationalité en France. Et toutes ces mesures-là sont soutenues par l'ensemble des partis politiques représentés au Parlement danois, dont même ceux qui se prétendent plus à gauche ou même socialistes, et même les Verts. Le type de justification qu'on peut attendre de la part de parlementaires ou de politiques au Danemark, par exemple, il est raisonnable que l'État ne paie pas pour ceux qui peuvent le faire par eux-mêmes. Il y a le Parti du Peuple, qui est un parti, je crois, d'extrême droite au Danemark. Ce que nous disons, c'est que si vous voulez venir en Europe, mieux vaut éviter le Danemark. Donc, c'est assez clair. On entend même certains politiques, certains députés dire que les Syriens, les Syriennes qui quittent leur pays devraient rester dans leur pays, se battre pour leur liberté. Donc, c'est juste si on les accuse pas de traîtrise ou de lâcheté, de fuir la guerre. Bon, heureusement, au Danemark, il y a quand même des gens qui ont de l'allure. Il y a des manifestations sous le thème « Not in my name », je sais pas c'est quoi le nom en danois. Donc, pas en mon nom, il y a quand même d'importantes manifestations. C'est un moyen d'envoyer un message au monde entier de la part des Danois, danoises, pour dire que il y a des gens qui se mobilisent contre la loi 87 dans ce pays-là et qu'il y a des gens qui sont pas d'accord. Il y a des réfugiés qui ont même commencé une grève de la faim. On juge cette loi-là indigne, surtout venant de la part d'un pays qui a signé parmi les premiers la Convention des droits de la personne. Selon le Haut Commissariat aux réfugiés de l'ONU, il y a plusieurs dispositions, dont celle sur la confiscation des biens, qui sont potentiellement une violation du droit international. Par contre, oui, je dois préciser que le Danemark n'a pas inventé ce genre de disposition-là. Ça existait déjà en Suisse, où on confisque déjà les biens et liquidités des personnes qui font une demande d'asile. On leur remet par la suite si les personnes décident de quitter le pays. Donc, c'est un peu un incitatif financier à quitter. On vous dit, si vous partez, on vous remet vos 2, 3, 4 000 $. En Allemagne, il y a deux Länder, soit la Bavière et le Bade-Württemberg, qui procèdent à des confiscations semblables. C'est pas exactement la même loi, mais les modalités sont un peu différentes. Et dans le Bade-Württemberg, les bijoux inclus, on les prend. Voilà, on s'en va en Suède. La Suède, qui est le pays qui reçoit le plus de demandes, c'est 163 000 demandes d'asile en 2015. En 2014, il y en avait eu 81 000, donc ça a plus que doublé. C'est le plus grand nombre jamais enregistré en 2015, donc 163 000. La Suède, c'est le pays européen qui reçoit le plus grand nombre de demandes proportionnellement à sa population, donc encore plus que l'Allemagne. Parmi ou en marge de ce nombre-là de 163 000, il se trouverait à peu près 26 000 enfants et mineurs non accompagnés. Donc c'est clair, on peut comprendre la Suède de se poser des questions, de vouloir légiférer, parce que c'est beaucoup de gestion, de logistique, de recevoir tant de personnes en si peu de temps. Mais on va voir comment la Suède entend gérer ça, en guillemets. D'abord, les taux d'acceptation pour les personnes syriennes, c'est 90%, donc il y a quand même 10% des personnes syriennes qu'on juge qu'elles n'ont pas de raison de vouloir s'établir dans un pays européen tel que la Suède. Les personnes afghanes, acceptées à 33%, donc rejetées à 66%, et les personnes irakiennes acceptées à seulement 20%. La Suède veut expulser 60 à 80 000 personnes qui ont fait une demande en 2015, dont expulser à peu près la moitié des 160 000 réfugiés de l'année dernière. C'est considérable. Donc, les expulsions vont s'étaler sur plusieurs années. Et comme il n'y a pas assez de place sur les vols commerciaux qui sont prévus au départ de Stockholm, on va devoir utiliser des avions charters ou des avions militaires. Les procédures seraient conformes à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, qui interdit les expulsions collectives de personnes migrantes, sauf si les demandes ont fait l'objet d'un examen individuel au préalable, ce qui, d'après la Suède, est le cas. Donc, ça pourrait se faire, malheureusement, ces 60 à 80 000 expulsions. Par contre, ça pourrait créer des problèmes d'apatridie, c'est-à-dire des personnes qui se retrouveraient sans nationalité, parce que certains pays comme le Maroc et l'Afghanistan refusent de reprendre leurs ressortissants. Il y a eu 40 000 personnes déboutées entre 2010 et 2015, donc 40 000 personnes dont les dossiers ont été refusés, qui ont disparu, qui sont probablement entrées en clandestinité ou qui ont bougé dans d'autres pays. Intention du gouvernement pour 2016, à partir de 2016, on veut diminuer le nombre de personnes reçues, on veut le diviser par 10. Donc, on veut fortement contrôler qui entre en Suède et rejeter davantage de personnes. Donc, différentes mesures pour y parvenir ou pour dissuader. Donc, décembre dernier, rétablissement du contrôle de la frontière entre la Suède et le Danemark, mettant fin à 60 ans de libre circulation entre les deux pays. Par exemple, dans la vraie vie, ça se manifeste que, par exemple, les opérateurs de ferry, de train, d'autocar doivent maintenant vérifier les identités de chaque personne qui embarque à bord, sous peine de se voir infliger une amende de 50 000 couronnes suédoises, donc une amende de 8 000 $ canadiens par personne dite illégale trouvée dans leur véhicule. Donc, imaginez, on trouve 10 personnes en situation irrégulière sur un ferry, par exemple. 10 personnes, ça équivaudrait à une amende de 80 000 $ pour la compagnie qui opère le ferry. Donc, c'est un régime de dénonciation. On force toujours avec l'argent, la collaboration populaire. D'autres mesures, différentes restrictions dans le programme de regroupement familial, la fin du permis de séjour permanent. Je sais pas trop c'est quoi ça, un permis de séjour permanent. Ça doit être une mesure qui est strictement suédoise. Contrairement au Danemark, en Suède, il n'y a pas de saisie des biens ou des liquidités transportées par les personnes réfugiées, mais on l'envisage. Donc, ça pourrait être adopté éventuellement. Il y a toute une réduction de la couverture sociale, des allocations. On va contraindre les nouveaux résidents, résidentes à prendre des emplois dans des conditions plus précaires que la normale au niveau des avantages, des salaires, des horaires. Donc, si on veut faire un comparatif avec ici, c'est semblable aux différentes réformes qu'il y a pu avoir à l'assurance emploi ou au fédéral ou à l'aide sociale au provincial, mais ensuite, ça s'adresse aux personnes réfugiées, aux personnes migrantes seulement. Le 10 février, la Suède a failli adopter une disposition de la loi qui ressemblait un peu à la déchéance de nationalité en France, mais c'est une proposition d'un parti d'extrême droite et qui, dans la proposition, on disait qu'on fait retirer la nationalité suédoise d'une personne, même si cela la rend apatride. Donc, c'est cette partie-là de la phrase qui a un peu fait tiquer les gens et ça a été refusé. Mais il y aura une proposition semblable qui va être probablement adoucie, édulcorée dans les prochaines semaines, les prochains mois. Ça va probablement être adopté aussi. Sinon, le climat social n'est pas très bon en Suède. Des histoires d'hommes masqués qui se promènent en ville, dans le centre de Stockholm, dans des plus petites villes et qui agressent des personnes qu'elles considèrent être des personnes étrangères. Il y a eu, au cours des derniers mois, il y a eu plusieurs centres d'accueil de réfugiés qui ont été incendiés à travers tout le pays. Finlande, on s'en va en Finlande, plus petit pays que la Suède. 33 000 demandes d'asile en 2015, c'est quand même 10 fois plus que les années précédentes. L'origine des personnes, Irak, Afghanistan, Somalie, Syrie, mais ce qui est particulier avec la Finlande, c'est que contrairement aux autres pays, les personnes sont majoritairement originaires d'Irak à 65% et non majoritairement originaires de Syrie, contrairement aux autres pays. Mais c'est ça, parmi les 33 000 demandes qu'il y a eu en 2015, la Finlande souhaite en voir 20 000 partir, conformément à ce qu'elle dit être le taux habituel de rejet qui est d'environ 65%. Donc, pas de programme spécial. 20 000 expulsions, s'il vous plaît, à partir de la Finlande. Par contre, contrairement à la Suède ou au Danemark, le gouvernement finlandais n'aura peut-être pas à travailler aussi fort pour expulser tout le monde. Parce qu'on dit que parmi les personnes irakiennes qui composent la majorité du contingent de personnes réfugiées qui arrivent en Finlande, 70% des demandes traitées seraient abandonnées. Donc, soit des personnes qui décident de retirer leurs demandes ou qui disparaissent. Par contre, pratiquement aucune personne syrienne ou afghane sont sans doute ne souhaite retourner à la maison, mais il y a beaucoup de personnes irakiennes qui, semble-t-il, ne souhaitent plus devenir résidents ou citoyens de la Finlande. Selon une responsable du gouvernement finlandais, ils nous disent que les délais de traitement sont trop longs, que des affaires familiales les forcent à partir. Certains trouvent l'atmosphère finlandaise hostile et certains ne restent pas à cause de l'obscurité de l'hiver, qui est bon, 2 heures de clarté par jour à peu près, et à cause du froid. Bon, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est une campagne de relations publiques pour mieux faire avaler les expulsions de la part du gouvernement finlandais? C'est peut-être vrai. Il y a peut-être une partie de vrai, une partie de faux. C'est quand même possible que les personnes irakiennes décident de retirer leur demande. Et la Finlande, le gouvernement organise quand même à partir de cette semaine des rapatriements par avion vers Bagdad. Bon, autre mesure, ben, réduit les aides qu'elle accorde aux réfugiés. Bon, on a scrappé un peu tout ce qui est aide allocation. On a resserré un peu les critères pour accéder à certaines catégories. Sinon, le climat social, pas très positif non plus, un peu comme en Suède. Donc, il y a un nouveau groupe, une nouvelle milice islamophobe qui s'appelle les soldats d'Odin. Odin étant un dieu local, un genre de dieu, un dieu norse, en fait. Son fondateur affirme, nous ne sommes pas racistes, mais nous considérons les nouveaux arrivants comme une menace puisque ce sont des musulmans. Vous irez voir les photos là, des soldats d'Odin, c'est vraiment des milices, ça a l'air presque paramilitaire. Ils ont un uniforme, ils portent un manteau avec tous le même logo au dos, un manteau noir, style bomber. Il y a comme une image de dieu viking avec un drapeau finlandais. Bref, ça fait un. J'imagine pour une personne racisée, voir une sorte d'armée au coin de la rue arriver devant soi, comme ça doit faire extrêmement peur. Sinon, bon, le fondateur de ce groupe-là, les soldats d'Odin, affirme que la police est complètement dépassée par l'arrivée d'autant de nouveaux venus et qu'elle a besoin d'aide, ce que les policiers nient catégoriquement. Enfin, si la police a besoin d'aide, ils en auront pour bâcher de l'immigrant parce que les soldats d'Odin sont des centaines de personnes. C'est inquiétant. Ça fait peur, mais il y a quand même, il y a une riposte citoyenne. Ça s'appelle les Sœurs des Kiliki. Kiliki est aussi un personnage mythologique finlandais, un personnage féminin. Les sœurs de Kiliki patrouillent les rues pour propager l'amour et la compassion, parfois accompagnées de clowns qui visent à ridiculiser le comportement des soldats d'Odin. Norvège, on termine avec le pays le plus au nord. Donc, la Norvège, quoi dire, comme le Danemark, elle achète de la publicité dissuasive dans les médias. Locaux au Proche-Orient, dans les médias, dans les journaux, en fait. De la publicité qui porte le titre « Règles d'immigration plus strictes en Norvège ». Donc, ne venez pas, s'il vous plaît. Nouvelles mesures récemment adoptées qu'on peut noter. Bon, nouvelles dispositions sur le regroupement familial. On exige maintenant qu'une personne ait travaillé ou étudié pendant au moins 4 ans avant de pouvoir faire venir sa famille. Sinon, ben, tout un assortiment d'autres mesures similaires à ce que j'ai pu vous disais tantôt sur les autres pays comme la Suède, le Danemark et la Finlande, donc en voie d'être adopté ou déjà adopté. Ce qui est particulier par contre en Norvège, je suis en train de vous parler de la Norvège, c'est les expulsions vers la Russie. La Norvège veut renvoyer la quasi-totalité des quelques 5 500 personnes arrivées sur son territoire l'an dernier en empruntant la route de l'Arctique, un itinéraire que je connaissais pas, que je pense pas qu'on vous en ait parlé dans nos chroniques aux Apatrides Anonymes. Donc, via la Russie, on arrive en Norvège. Actuellement, bon, la température avoisine les moins 30 degrés Celsius dans la région, mais les déportations ont quand même déjà commencé. Donc, regardez une carte. Entre la frontière entre la Norvège et la Russie est vraiment est très au nord. C'est au nord du. C'est au-dessus du cercle polaire. C'est une assez courte frontière, c'est une région qui est pas très développée, qui est assez isolée. Donc jusqu'à maintenant, il y a eu 200 expulsions, mais les reconduites ont cessé la semaine dernière à la demande des autorités russes qui ont invoqué des raisons de sécurité. La Norvège dit quand même négocier actuellement avec la Russie les modalités de la reprise des expulsions. Expulsions qui se poursuivent quand même, ouais, c'est ça, faut le préciser, pour une catégorie spécifique de personnes. Les personnes qui disposent de visas ou de titres de séjour russes valides, on continue à les réenvoyer en Russie. via la frontière Norvège-Russie. Je rappelle que bon, les déportations ont lieu sans qu'aucune prise en charge ne soit prévue par le gouvernement russe, abandonnant les personnes à leur sort dans des températures polaires, dans une région assez isolée et aride. Il y a quelques rares groupes de bénévoles du côté russe qui essaient d'aider un peu, mais c'est avec des moyens extrêmement limités. On craint que certaines personnes ensuite soient expulsées vers des pays en guerre comme la Syrie, chose que la Russie a déjà faite. Il y a eu des cas documentés, bien que ce soit illégal, on a renvoyé des personnes vers le gouvernement russe a renvoyé des personnes vers la Syrie, selon le Haut Commissariat aux réfugiés des Nations Unies. Et pourtant, la Norvège continue à considérer la Russie comme un pays sûr. Donc, petite statistique pour vous quitter. L'accueil des réfugiés en Norvège, en 6 ans, il y a eu seulement 2 personnes syriennes qui ont obtenu le statut de réfugié. Donc, 2 Syriens, 2 personnes syriennes en 6 ans en Norvège qui ont obtenu le statut de réfugié sur les 5 000 qui en ont fait la demande. Voilà, c'est tout pour les pays scandinaves. Ben, il y a un 5e pays scandinave, c'est l'Islande. Il n'y a absolument rien dans l'actualité en immigration actuellement sur l'Islande. Donc, je vous laisse là-dessus. C'était la chronique des apatrides anonymes avec Simon. Notre site web apatridesanonymes.info. C'est l'émission en profondeur à CKUT et bonne soirée.